France Inter, le 18-20.
Ma femme m'a dit qu'elle voulait que nos enfants arrêtent le rugby. C'est Olivier Magne qui parle, qui est aussi l'un de nos invités ce soir. Et quand on se pose ce genre de questions, quand on a été troisième ligne du 15 de France, c'est qu'il se passe quelque chose. Quatre décès en moins d'un an. Quatre jeunes gens qui meurent sur un terrain de rugby ou juste après, à la suite, le plus souvent, d'un plaquage violent, commotion. Et c'est vrai qu'on y va tête baissée, évidemment, c'est le principe du rugby. Mais est-il devenu trop violent? Les charges trop raides, les plaquages trop rudes? Est-ce qu'il faut revoir certaines règles? Visiblement, la prise de conscience, elle est là, puisqu'on parle de se réinventer. La fédération a mis sur la table un certain nombre d'idées dont on parlera pour plaquer différemment, notamment revenir peut-être à un rugby plus d'évitement. Le rugby doit-il se réinventer? Parce que s'il est un sport désormais dangereux, il peut aussi devenir un sport en danger. Parlons-en ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès, le téléphone sonne.
Serge, c'est vous le premier. Bonsoir Serge.
Bonsoir, je suis content d'être le premier. Et surtout que, en fait, j'ai introduit dans ma question quelque chose d'important. J'ai dit que vous aviez annoncé le téléphone sonne en disant que le rugby est un sport de combat. Alors, vous avez à la fois tort et raison. Raison parce que quand il a été inventé, le rugby, c'était en effet un sport de combat. C'était fait pour former des jeunes de l'aristocratie, notamment au commandement militaire. Mais depuis, il y a eu des tas de règles qui ont été inventées pour pacifier le rugby. Et je trouve, moi, que le rugby doit être un sport, plutôt un sport de finesse, puisque en effet, c'est des mouvements d'évitement. On passe le ballon vers l'arrière, poliment. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très courtois. Non, mais je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de courtois dans le rugby, qui n'est pas assez mis en valeur. Et je déplore, moi, par exemple, que notamment sur la radio ou la télévision, on parle, par exemple, de résultats de football, où telle équipe a écrasé l'autre équipe. On utilise des tas de mots comme ça, un peu violents, etc. Et voire guerrier. Et je trouve que ça, moi, ça convient pas au rugby, ça convient pas à ma vision du rugby.
Et en même temps, Serge, je vous entends. Et au contraire que je vous entends et vous dites le rugby devrait être un sport courtois, etc. Ça veut dire que au fond, vous avez le sentiment qu'il ne l'est pas ou qu'il ne l'est plus, peut-être.
En fait, dû à la professionnalisation, à l'obligation de résultat, au fait que il y a des propriétaires d'équipes, etc. Donc, dû au fait qu'on est dans un monde où il faut absolument gagner dans tous les sens du mot, gagner de l'argent, gagner sur le terrain, etc. Donc, on en fait un sport de combat et ça ne devrait pas l'être. Et si ça ne l'était pas, ça serait formidable et en plus, ça permettrait de sauver la vie d'un certain nombre de gens qui ne devraient pas jamais être ni blessés, ni même mourir, encore moins mourir sur un terrain de sport.
Et là-dessus, on peut tous tomber d'accord, en effet. Merci beaucoup, Serge, pour cette entrée en matière et ce premier témoignage pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Olivier Magne est là, précisément. Bonsoir. Ancien international, ancien sélectionneur de l'équipe de France des moins de 20 ans. La petite phrase, je ne l'ai pas inventée, vous nous raconterez comment vous vous êtes arrangé avec votre femme. Bonsoir, Jean-François Sherman. Vous êtes neurologue et bonsoir, Vincent Pellegrini.
Bonsoir, Fabienne.
Du service des sports de Radio France. Je voudrais préciser que c'est de votre faute si j'ai dit effectivement dans l'introduction sport de combat, parce que c'est vous qui l'avez dit.
Bah oui, c'est un sport collectif de combat, le rugby, incontestablement. Ça n'empêche pas la finesse dont parlait notre interlocuteur, mais c'est vrai que oui, il y a des mêlées, il y a des plaquages, et c'est aussi la nature du rugby, le combat.
Alors, Olivier Mann, je voudrais revenir sur ce que disait Serge. Est-ce que il dit le rugby devrait être un sport plus courtois? On reviendra sur ce qui justifie que la fédération parle aujourd'hui de revoir un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'il a beaucoup bougé le rugby? Est-ce qu'on est beaucoup plus... je ne sais pas comment je vais dire ça. J'ai pas envie de dire plus violent, en fait, mais peut-être que c'est ça le mot. Est-ce qu'en tout cas, l'engagement est nettement plus important qu'il l'était il y a 15 ou 20 ans?
Alors, oui, moi, c'est un sport où on s'engage, évidemment. Et c'est un sport violent, évidemment. Et je suis d'accord avec Serge. Ça n'est pas un sport de combat. C'est un sport où la finalité est de trouver les espaces libres, déplacer le ballon dans les espaces libres, de manière à pouvoir amener ce ballon derrière la ligne adverse. Et par conséquent, l'adversaire s'y oppose. Et il y a des zones de contact, il y a des points de rencontre où justement la priorité est de conserver ce ballon, de gagner ce ballon. Mais en aucun cas, c'est un sport de combat, parce que si on raisonne de la sorte, à ce moment-là, il faudrait raisonner comme on peut raisonner dans les autres sports de combat. On catégorise les athlètes par poids et par taille. Ce qui n'est pas le cas. En rugby, tout le monde est admis, les petits, les gros, les grands, les lourds, les moins lourds. Donc c'est un sport, évidemment, où sur le lexique, sur les mots que l'on emploie, je pense qu'il est très important de revenir là-dessus, de manière à pouvoir donner une autre autre représentation du rugby à nos enfants, de manière à leur expliquer que c'est un sport où on évite l'adversaire en priorité.
Jean-François Sherman, est-ce que, je ne sais pas s'il y a plus de blessures aujourd'hui, ou est-ce que les blessures sont plus graves aujourd'hui, parce que ce sont deux choses très différentes.
Il y a plus de blessures dans les, depuis les années 90, c'est vrai, parce que le rugby est devenu un sport avec plus d'affrontements, avec une plus grande vélocité, des physiques qui sont beaucoup plus démesurés qu'ils n'étaient auparavant.
On y viendra, parce que
les chocs sont plus importants. Après, on vient de reconnaître qu'actuellement, il y a moins de commotions cette année et l'année dernière que les autres années. Il y a aussi une prise de conscience, probablement. Il y a plus d'efforts qui sont faits par les joueurs, par les médecins, par les coachs, pour que tout ça soit mieux pris en charge. Mais il y a encore beaucoup plus de, problèmes de ce côté-là.
Alors, qu'est-ce qu'on risque, en fait? La commotion dont on parle, est-ce que c'est la même chose que ce qu'on connaît des boxeurs?
Oui, c'est
le même genre de choses.
Oui. Bah, le risque, en fait, une commotion, c'est donc une altération des fonctions neurologiques après un coup ou un impact administré au cerveau. En soi, c'est un traumatisme crânien léger. C'est pas anodin. C'est bénin, mais c'est pas anodin. La grosse problématique, c'est de rester sur l'aire de jeu, mais ça peut être dans n'importe quel sport que c'est la même chose, et continuer à jouer et avoir un second impact, surtout chez les jeunes, qui peut être catastrophique. Parce que quand on prend un second impact sur un cerveau qui a été fragilisé par une première commotion, il y a carrément un risque de mort. Heureusement, c'est rarissime. Et on sait pas pourquoi ces gens qui prennent un second impact vont mourir. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement qui vont rester sur le terrain. On sait que c'est 60% des sportifs, tout sport confondu, qui continuent à jouer malgré la commotion. Donc heureusement que le second impact n'arrive pas très souvent et même très rarement. Mais en tout cas, c'est ça qu'on pourrait dire aux gens, c'est la commotion en soi, c'est pas grave, à condition qu'on sorte tout de suite de l'aire de jeu. Dans n'importe quel sport, foot, rugby, handball, équitation, il faut absolument arrêter le sport immédiatement quand il y a une commotion.
Mais là, on a l'impression quand même que la fédération est en train de s'inquiéter réellement, puisqu'on va mettre les choses sur le tapis. Vincent, ce sera au mois de mars prochain, reparler de ces engagements-là, changer les niveaux de plaquage.
C'est-à-dire que suite à la mort du jeune joueur du Stade français Nicolas Chauvin, les dirigeants de la Fédération française et de la Ligue ont rencontré les dirigeants de World Rugby, la Fédération internationale de rugby, pour parler justement de ce qu'on pouvait faire au niveau des plaquages pour éviter les accidents. Et a été décidé donc la tenue d'un colloque le 19 et 20 mars à Paris. La Fédération française va proposer notamment l'interdiction du plaquage à deux et également faire baisser la ligne de plaquage pour qu'il n'y ait pas des plaquages hauts.
Donc, baisser la ligne
dangereux.
De plaquage, ça veut dire qu'on plaque à la poitrine, on plaquera quoi au niveau du ventre, c'est ça, Olivier
Magne?
Au
niveau du short,
tout
simplement.
Short,
alors, ces plaquages sont venus notamment des joueurs de l'hémisphère sud, notamment les Samoans, les Fidjiens, les Tongiens avaient l'habitude et c'était très reconnus chez eux, c'était très apprécié dans leur comportement, c'était de plaquer très haut et de faire mal à l'adversaire. Et c'est vrai que aujourd'hui, la Fédération internationale et la Fédération française de rugby doit sanctionner durement ces plaquages hauts qui peuvent être très dangereux pour l'adversaire.
Farid, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur, dame. Moi, ma question était à monsieur par rapport à la Fédération française du rugby, si elle allait prendre des initiatives pour proposer des protections individuelles pour les rugby de match. Parce que les chocs, ils sont quand même assez importants, quand même.
Et merci, Farid, pour votre question, parce qu'effectivement, c'est une vraie question qui se pose. Jean-François Sherman, faudrait-il protéger les joueurs, en fait?
Alors, quand il y a eu le développement du professionnalisme, il y a eu vraiment, on dirait, une épidémie de protection. C'est-à-dire que la plupart des joueurs étaient comme des bimins d'hommes. Ils se mettaient des casques, ils se mettaient des protections au niveau des épaules, et c'était, en fait, c'était une grosse erreur, parce que finalement, ça n'empêchait pas les blessures d'arriver, et au contraire, ça faisait des chocs encore plus forts, parce qu'on pensait qu'on était surprotégé. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a une commotion, on se pose la question de mettre un casque pour la fois suivante.
Mais le casque en rugby, c'est pas non plus pas comment ça s'appelle d'ailleurs, parce que c'est pas comme du football américain.
Oui, mais
par
même
exemple.
En football américain, il y a beaucoup de commotions, donc le casque du football américain n'empêche pas les commotions, tout comme les casques dans l'armée américaine protègent des gros traumas crâniens, mais pas du tout des commotions. Donc les protections type de casque ou autre type de protection n'ont absolument pas d'intérêt pour protéger les commotions. Ce que je voulais juste ajouter, tout à l'heure, vous étiez en train de parler des plaquages hauts. Ouais. En fait, les plaquages hauts, c'est vrai que ça peut favoriser les commotions, mais dans le cas de Nicolas Chauvin, c'est surtout une fracture cervicale. On n'est pas du tout dans le champ des commotion, il faut bien comprendre ça, c'est que la gravité des plaquages hauts, c'est surtout au niveau des cervicales. Bien sûr que ça peut déclencher des commotions, mais la gravité, c'est surtout les cervicales. Et puis, un truc très important, c'est qu'il faut différencier le plaqueur du plaqué.
Alors, j'allais vous demander, est-ce que c'est le plaqueur ou le plaqué qui est le plus en danger?
70% des commotions sont liées au plaqueur et non pas au plaqué. C'est ça qui est très important.
Le plaqué tombe dans l'herbe alors que le plaqueur, il se prend un genou.
En tout cas, c'est
70%.
Donc, c'est vrai que c'est important de se dire qu'il vaut mieux plaquer peut-être plus bas. Encore qu'il y a eu un essai en Angleterre qui montre que finalement, c'est pas du tout concluant.
Et pareil, on est revenu en arrière, même.
On est en train de se dire que c'est pas bon parce que si on plaque trop bas et qu'on plaque à deux trop bas, on s'entrechoque tête contre tête. Parce que d'habitude, il y en a un qui plaque haut et l'autre qui plaque plus bas. Si on plaque tous les deux bas, il y a plus de risque de se toucher tête contre tête. Donc, en tout cas, interdire le plaquage à deux, ça semble une évidence. Mais de là à forcément abaisser la ligne de plaquage, c'est à réfléchir.
Parce qu'en fait, pendant trois mois, dans la deuxième division anglaise, donc on pouvait plaquer uniquement au niveau de la taille, on s'est aperçu qu'il y avait autant de commotions qu'avant. Donc c'est vrai que c'est un problème qui est quand même très très complexe, le problème du plaquage. Ça semble simple de dire, on va diminuer la ligne de plaquage et tout va s'arranger, mais c'est vraiment pas le cas.
Jean-François Germain, je voudrais revenir une seconde sur ce que vous avez dit. La protection, ça sert à rien. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux ne pas en avoir du tout, parce qu'au fond, on fait plus attention à l'autre quand il n'y a pas de protection, c'est ça l'idée
ou
pas ?
En fait, c'est dans beaucoup de sports la même chose. Vous savez, au ski, aux États-Unis, ils ont obligé les skieurs à mettre des casques.
Ils vont vachement plus vite parce
qu'ils ont ils prennent plus de risques, il y a plus de commotion. C'est clair. Et je pense que c'est la même chose dans beaucoup de sports, finalement. Et c'est assez concluant de ce côté-là. Ça sert à rien de mettre un casque. L'important, c'est de ne pas avoir des comportements à risque, des comportements qui vous mettent en danger. Il vaut mieux savoir bien plaquer, bien positionner sa tête, plutôt que mettre un casque et mal positionner sa tête, parce que c'est là qu'on sera commotionné.
Olivier Magny, est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous vous souvenez, vous, le joueur? On fait plus attention, oui, quand on est tous sans protection du tout. En fait, on fait attention à l'autre et à soi.
Oui, alors moi, j'aimais bien quand même les avoir, les protections, notamment pour la tête, mais c'est vrai que c'est pas des coques comme
des
football américain, c'est de la mousse. Mais c'était plus pour protéger des coupures, parce que c'était assez gênant d'être d'avoir des.
On peut se faire arracher une oreille dans une mêlée, non mais je dis ça sans.
Les oreilles en souffleur,
C'était fait pour protéger, mais c'est vrai que les protections n'ont pas évidemment d'effet notable sur la protection du joueur de rugby. Quand vous avez des entorses du genou ou des commotions, et bien évidemment que les protections ne peuvent pas parer à ce genre d'accident, évidemment.
Et les protections, de toute façon, du corps, c'est quoi ? C'était de la mousse aussi ou
exactement,
non ? C'est de la mousse, c'est ça. On n'est pas non plus dans une coque, encore une fois, façon football américain. Et vous l'avez noté, vous l'avez dit, effectivement, le football américain a des problèmes de commotion aussi, malgré les casques, malgré les protections, etc. Bonsoir, Elisabeth.
Bonsoir à tous.
Allez-y, Elisabeth. Bonsoir.
Donc moi je suis ancienne joueuse de rugby à 7. Je suis entièrement d'accord et des fois en désaccord avec ce qui vient d'être dit, mais j'espère être pas en redondance. Pour moi, le rugby n'est absolument pas un sport de combat, c'est un sport de contact. En tout cas, c'est comme ça que je l'imaginais, que je l'ai vécu. La tradition française n'était pas de faire du pick and go comme les Anglais, c'est-à-dire hop, on se met devant la ligne d'en but et j'avance de 10 cm et hop, je me refous dans plein de monde. Non, la balle est fluide, le ballon est fluide. Et c'est ça qui est important dans le rugby, c'est de faire traverser le ballon d'un côté à l'autre. Et pour moi, ça, c'est l'un des fondamentaux du rugby. Moi, je me souviens très bien, j'ai aimé le rugby à partir du moment où j'ai vu le Stade français, je crois que c'était lui, qui venait jouer avec des nœuds papillons. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Bien sûr, ouais. C'était le Racing, nous dit Olivier Magny.
C'est le Racing.
Honte à vous, Elisabeth.
Du coup, Racing 92. Hein. Et là, c'était franchement ça, le rugby. C'est du contact, on ne va pas se laisser faire, on va les aviniter, mais dans le respect de l'autre. Ce qui permettait d'avoir une troisième mi-temps, alors qu'aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un dans le coma de votre équipe, vous n'avez franchement pas envie de faire une troisième mi-temps avec les autres. Donc ça aussi, ça change. Ensuite, pour moi, les casques, effectivement, au départ, c'était pour les gens démêlés, parce que les oreilles chou-fleurs, effectivement. Et c'est devenu moins de contact et un peu plus, moins irrespectueux, enfin moins respectueux. Et donc, moi, j'étais très rassurée avec mon casque. Et alors qu'il y avait ce qu'on appelle des plaquages cathédrales, on voulait faire le tour là, en l'air, et vous retombez par terre, vous êtes quand même heureuse d'avoir 5 cm de mousse sur le crâne. Et c'est là aussi où ces nouvelles règles de rugby, bon, on plaque, ok, en bas du ventre, mais déjà si on respectait les règles qui sont là. Pas de plaquage cathédrale, pas de plaquage cravate, où on vous, on vous prend par la gorge, donc évidemment vous n'allez pas pouvoir vous défendre. Ça déjà, ce serait bien de faire respecter les lois par rapport à ça. Ensuite, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus violent depuis qu'il y a le dopage. c'est très clair qu'il y a du dopage. Soudainement, on passe des équipes où les gars, enfin où la mêlée allait faire, 200 kilos. Mmh. Maintenant, elle va en faire 270. Enfin, c'est terrible, quoi. Et c'est clairement du dopage. Et il faudrait bien s'intéresser à ça aussi, parce que ça fait beaucoup plus mal, évidemment, quand on plaque ou quand on est plaqué. Comme disait votre intervenant, effectivement, le plaqueur, lui aussi, se fait très mal.
Et merci. Pardon.
Le dopage.
Pardon, merci beaucoup Elisabeth. Vous avez prononcé le mot qui fait gling, 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 gling dans la tête de tout le monde. Juste un mot quand même avant, Olivier Magne peut-être. Les filles jouent au rugby effectivement et elles jouent de plus en plus au rugby. Oui. Est-ce qu'elles rendent le rugby justement plus fluide, comme le dit Elisabeth, que les garçons? Est-ce qu'il y a un rugby féminin plus fluide, plus de passage de balles, plus de beauté et de courtoisie, comme disait notre premier interlocuteur?
Oui, d'ailleurs, on va les saluer. Hein, elles se sont surnommées les affamées. Elles réalisent de très bonnes prestations. Et d'ailleurs, elle joue un rugby qu'on pouvait voir dans les années 80, dans les années 90. Ce rugby fait de vitesse, de mouvement, d'évitement, d'intelligence. Je rappelle que le rugby est fait pour tout le monde, sauf pour les imbéciles. Et les filles nous le rendent bien. Et je crois qu'aujourd'hui, la locomotive du rugby français, ce n'est plus malheureusement la grande équipe de France, mais c'est le rugby féminin, l'équipe de rugby féminine et les jeunes qui jouent, qui pratiquent un rugby tout à fait intéressant. Et je pense que dans quelques années, et je l'espère, on héritera un petit peu du travail qui est fait, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inertie et on a tout intérêt à retrouver une équipe de France compétitive pour le futur. Et
d'ailleurs, le nombre de licenciés de la fédération baisse, mais le nombre de licenciés de joueuses féminines augmente depuis déjà plusieurs années de façon assez spectaculaire.
Alors, Elisabeth a mis les pieds dans le plat en parlant de dopage, et on va y aller parce que de toute façon, on ne comptait pas éviter le sujet. Ce qu'elle dit, c'est elle parle de kilos, de 100 kilos, 200 kilos qui arrivent comme ça au moment du plaquage. D'abord, il y a une chose qui est évidente, Jean-François Sherman, la physionomie, la physiologie, l'allure d'un joueur de rugby aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 20 ans.
Ça, c'est certain. Maintenant, de là à parler de dopage, personnellement, j'ai beaucoup de mal à le croire. En tout cas, je suis persuadé qu'il n'y a pas de dopage organisé. Maintenant,
organisé, on ne sait pas. Après, il y a eu littérature sur le dopage en rugby aussi.
Moi, je travaille avec plusieurs clubs de manière sérieuse et je suis persuadé que dans les clubs avec lesquels je travaille, il n'y a pas du tout de dopage organisé. Alors qu'après, il y a des personnes qui se dopent individuellement. On ne pourra jamais empêcher personne de se doper individuellement. Mais je pense que c'est surtout une préparation physique monstrueuse, développement une musculature extraordinaire, mais aussi parce que c'est des joueurs qui pratiquement font de la musculation quasiment tous les jours. Et c'était pas du tout la culture de l'époque d'Olivier. Je pense que il y avait certainement pas de la musculation tous les jours du quotidien. C'était probablement une ou deux fois par semaine. Donc il y a vraiment un développement musculaire qui n'a plus rien à voir du fait aussi de la préparation physique. C'est plus du tout la même non plus.
Olivier Magne, un joueur de rugby aujourd'hui, il vous rend combien de kilos à vous, par exemple, qui êtes quand même costaud?
Bah alors moi, pour vous situer, hein, je faisais 95 kilos quand je jouais, troisième ligne. Aujourd'hui, le joueur qui est à mon poste, à moins de 110 kilos, il a du mal à exister sur ce terrain-là. Donc, du dopage, je crois pas. Organisé, encore moins. J'ai toujours voulu être un peu naïf par rapport à ça. Toujours est-il qu'il faut prendre les précautions, des précautions importantes, notamment chez les jeunes, chez qui la tentation peut être grande, ou peut-être le manque d'informations ne leur permet pas aussi d'avoir un discernement assez important. Mais oui, les joueurs, les gabarits ont évolué. À l'époque, il n'y en avait qu'un seul. Il y avait John Alomou, qui était un extraterrestre, qui faisait le 100 mètres en 11 secondes.
Et bien évidemment, pesait combien
120 kilos.
C'était à la fois le joueur le plus rapide et le plus lourd de l'équipe de Nouvelle-Zélande. C'était forcément...
C'était un joueur qui était capable de jouer sur tous les registres. Il était à la fois capable... évidemment, de vous rentrer dedans. Et puis là, c'était quasiment un accident de voiture hein, quand vous rencontriez John Alomou. et puis, il était tout aussi capable d'éviter les joueurs. Donc, c'était... aujourd'hui, il y a des joueurs qui, grâce à ce physique important qu'ils ont, ne jouent que sur un seul registre, sur le défi, sur l'affrontement. Et c'est ça qui est dérangeant. C'est que il y a cette volonté de faire mal. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire d'éducation, de prévention et de sanctions aussi à travers les fautes qui peuvent être commis par ces joueurs, avec les arbitres qui doivent faire un travail aussi important.
Mais là, on voit qu'il y a un véritable changement de comportement dans les différentes équipes, parce que de plus en plus, même à la lumière de ce que font les Blacks, On voit même en France des clubs qui de plus en plus favorisent non plus les joueurs très forts, très très grands physiquement, mais des joueurs beaucoup plus véloces, beaucoup plus rapides et avec une logique d'évitement beaucoup plus qu'une logique d'affrontement. Je pense qu'il y a un retour en arrière, une prise de conscience que même dans l'équipe de France dont on vient de voir les choix forts de Jacques Brunel, on a choisi par exemple au niveau des centres un garçon jeune plutôt qu'un garçon expérimenté, beaucoup plus physique. Donc déjà, on est en train de se rapprocher des modèles des All Blacks ou des...
Mais précisément, parce que vous parlez d'un jeune homme en équipe de France, les accidents qui ont eu lieu récemment sont plutôt des jeunes, ce ne sont pas des rugbyman qui sont de vrais rugbyman professionnels et qui ont peut-être, qui sont à la fois aguerris au cou et qui ont, j'allais dire, qui ont la tête dure parce qu'ils en ont vu d'autres. Est-ce que le problème, il vient pas d'avant? C'est-à-dire, quand on fait du rugby, même en amateur, même le plus souvent d'ailleurs en amateur, quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, et là, pour le coup, si on a envie d'imiter ce qu'on voit en ce moment tournoi destination, on rentre dans le tas et on le fait tel qu'il ne faut pas le faire, Olivier Maine, non ?
Ouais, complètement. Moi, je vais vous donner un exemple. Le jour où j'ai arrêté ma carrière, j'ai complètement arrêté de jouer au rugby. Je me suis interdit de jouer au rugby parce que j'ai eu cette grande chance et, d'avoir une étoile au-dessus de la tête, c'est que j'ai jamais été blessé durant ma carrière. Et je me suis dit, mais en 2007, quand j'ai arrêté, il est interdit pour moi d'aller faire un match amateur ou de jouer avec les copains parce que je sais pertinemment
que... Vous ne faites plus le poids, en fait.
Non, c'est pas ça. C'est que je sais qu'il y a une préparation qui va avec le match et que si je suis pas prêt physiquement à faire ce que j'ai l'habitude de faire, finalement je risque l'accident. Donc il faut être très vigilant. Il y a la technique, il y a aussi la préparation physique, mais voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que le joueur est dans les meilleures dispositions pour affronter un adversaire qui du même gabarit.
Bonsoir Éléonore.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Éléonore, on vous écoute.
Oui, bah écoutez, merci de prendre mon appel. Écoutez, c'est juste un témoignage d'une maman. Moi, mon fils a 8 ans et demi, il joue au rugby depuis qu'il a 5 ans. Il est ravi. Il se lève très tôt le samedi pour aller faire les tournois. Il va à l'entraînement le mercredi. Et la question, moi, que je me pose, c'est... Là, il est en U10. À 15 ans, il me dit « Maman, je veux faire du hand ou du basket ». Je lui dis « Bah oui, mon chéri, je veux pas faire du hand ou du basket. » Parce que... ça fait peur. Voilà, ça fait peur à une maman. Par contre, je vous dirais que là, à l'école de rugby, les valeurs du rugby, c'est absolument fantastique, génial. Tous les enfants sont acceptés sur le terrain. Petits, grands, gros, rapides. Même celui qui n'a pas encore compris qu'on passait la balle...
En arrière, c'est pas grave.
En arrière, voilà. Il est accepté et il est là le samedi sur le au tournoi, sur la feuille de match, et il joue. Par contre, la question, moi en tant que maman, ça me tracasse. Bon, après, pour j'écoutais là ce que disaient vos intervenants, moi je suis pas du tout pro du rugby, mais je sais qu'à l'école de rugby, on leur a déjà appris que quand on plaquait en dessous la ceinture et qu'on descendait, et que le but du jeu c'était d'éviter et de construire des échanges et de passer la balle aux copains. Donc il y a ça aussi.
Eh ben merci beaucoup Éléonore. Olivier Maine, j'ai envie de vous reposer la question qui était la question de votre femme visiblement à vous aussi. Est-ce que vos enfants jouent toujours au rugby ou est-ce que cette crainte-là, qui est aussi la même que celle d'Éléonore, c'est un peu...
Oui. Alors j'ai deux garçons, j'en ai un qui a 8 ans et l'autre qui en a 13. Et celui de 8 ans, bon, est fait Coupe du Monde de foot, il est parti faire du foot pour essayer. Donc j'aime bien que les enfants, voilà, je vais le déshériter. Non, j'aime bien que les enfants touchent un petit peu à tout. Et puis il y a l'aîné qui joue toujours au rugby. Et effectivement, il y a des choses qui interpellent. La dernière fois, j'ai été le voir sur une rencontre triangulaire entre Tyros et Bayonne. Et il joue à Biarritz. Donc, il jouait contre les Bayonnais. Les Bayonnais avaient 20 cm et 30 kg de plus pour la plupart. Donc, c'est là où peut y avoir énormément de disparités et qu'il est important pour la fédération d'obliger les éducateurs dans ce cadre-là, quand il y a trop de différences entre les équipes, de faire un mix entre les deux équipes de manière à pouvoir égaliser un petit peu, on dirait, les forces en présence.
Eh ben bonsoir François, vous êtes éducateur de rugby, vous.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, je suis éducateur de rugby dans un petit club autour de Bordeaux, à Florac. Et ça fait donc à peu près 5-6 ans que je suis éducateur. Et je voulais intervenir parce que pour dire que je sépare totalement, à mon sens, le rugby professionnel qu'on voit à la télé et le rugby que nous, on enseigne dans les écoles de rugby, c'est vraiment autre chose. Et je voulais signaler qu'effectivement, il y a une prise en compte de la part de la fédération et donc des comités de cette problématique de dangerosité. Donc, on a une évolution au niveau du jeu. notamment par exemple cette année, il est interdit de ce qu'on appelle un passage en force, c'est-à-dire aller péter contre son adversaire histoire de détruire. On va développer ce qu'on appelle nous le flag, c'est-à-dire un jeu de rugby avec des où il faut arracher en fait des petits bouts de tissu sur le côté des scratchs pour développer la vélocité des enfants. On essaie d'apprendre le plaquage le plus possible. En fait, on essaie de faire changer la culture latine. Et c'est important pour nous de voir ça et de leur faire comprendre que on n'est pas dans le top 14, on est là pour ça. Alors c'est vrai qu'il nous manque des fois des moyens de la part de la Fédé qu'elles viennent plus sur les terrains pour nous donner des appuis techniques auprès des éducateurs. Bon, j'espère que ça va arriver de plus en plus. Mais je pense qu'effectivement, je comprends tout à fait après l'idée des mamans et des papas qui se disent qu'ils ont peur, parce que c'est vrai que chaque fois que vous changez de catégorie, puisque c'est des catégories tous les 2 ans, il peut y avoir quand même une différence au niveau de la taille, du poids, qui peut être important.
Mais quand je vous entends, François, pardon de vous interrompre, j'ai l'impression que les gamins, quand vous les prenez, ont plutôt tendance, effectivement, à jouer les durs, à jouer au 15 de France, et du coup, y aller beaucoup plus fort, et vous devez un peu les freiner. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou pas?
C'est pas comme ça, mais quand vous avez, moi, par exemple, je suis dans ce qu'on appelle la catégorie des U14, donc moins de 14 ans. J'ai un enfant que j'entraîne qui fait 93 kilos pour 1m80. Donc évidemment, la première chose qu'il aurait envie de faire, c'est de prendre le ballon et d'aller tout droit. Mmh. Or, l'objectif, c'est quoi? C'est justement de faire de l'évitement, de faire jouer les autres, les copains. On joue en équipe, ça ne sert à rien, effectivement, d'aller marquer, j'ai envie de dire, comme on disait, marquer son essai. Non, l'important, c'est l'équipe. Donc, l'objectif, vraiment, c'est de les amener là-dessus, parce que aussi, c'est une question de sécurité pour eux. Pour ça, c'est important, quoi. Moi, je trouve que là, après, il est vrai qu'il y a des gabarits qui sont assez impressionnants. Et moi, je me demande si des fois, ce ne serait pas bien de les surclasser carrément, quoi. Parce que quand vous avez des enfants qui sont de petite taille et que vous avez en face de vous d'autres enfants qui font 1m50 à tout casser pour 50 kilos, ça fait plutôt peur quand vous voyez arriver un gamin comme ça, quoi.
Merci.
Aussi imposant.
Merci, François. Voilà. Une remarque, Vincent, on va écouter William.
Juste pour compléter ce que dit François, c'est que la Fédération française, qui a bien conscience qu'il y a un risque de désaffection pour le rugby auprès des jeunes, a lancé en août dernier une initiative qui s'appelle Bien Jouer et qui demande justement à tous les techniciens en France de privilégier justement ce rugby d'évitement et d'accompagner d'un certain nombre de règles pour éviter justement qu'il y ait trop de collisions dans les catégories de jeunes.
On va enchaîner avec William qui est sur le même thème. Bonsoir, William.
Bonsoir. Effectivement, j'avais une question qui était, il me semble qu'en Nouvelle-Zélande, les écoles de rugby jouent par classe de poids, de taille. Je voulais poser une autre question, alors c'est pas bien parce qu'en fait je trouve une excuse au rugby pour avoir beaucoup de morts, mais je crois qu'Olivier Magne a failli être professionnel de ski, et je me demandais combien il y avait de morts au ski, voilà, ou bien dans d'autres sports, comme les sports équestres. Enfin, une dernière chose pour tous ceux qui, comme moi, s'étranglent ce soir d'entendre que le rugby n'est pas un sport de combat. J'ai été talonneur dans un club où Olivier Mann était entraîneur des années après. J'étais en première ligne et c'est un sport de combat. C'est clairement un sport de combat. Et oui, l'évitement, il y a les trois quarts. Une fois qu'on sait bien jouer au rugby, qu'on sait bien faire son rôle fondamental à son poste, on va apprendre le rôle des autres. Mais si, c'est un sport de combat pour au moins la moitié de l'équipe, le rugby. Et la première ligne, n'oubliez pas, ils vont à la mine.
Ils vont à la mine. Merci, William. On va vous donner le numéro de téléphone de Serge, qui nous a engueulé tout à l'heure parce qu'on a dit que c'était un sport de combat. Mais j'ai vu, Olivier Mann, que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le terme.
Non, mais c'est là où, sur le lexique, il faut être très, très attentif. Je pense que c'est de la lutte, mais pas du combat. Il faut être très, très précis, je pense, à un moment où justement le rugby français a besoin de retrouver un nombre important de licenciés, de retrouver véritablement ce qu'est son identité à travers son histoire avec ce rugby champagne qui est envié par l'ensemble du rugby mondial. Donc voilà, ce mot combat, je le réfute complètement. C'est un sport de contact, c'est un sport où il faut éviter, il faut mettre le ballon dans les espaces libres. C'est un sport unique parce que c'est le seul sport au monde où vous avez le droit de vous lier avec un partenaire pour affronter l'adversaire. Mais c'est de la lutte, c'est pas du combat.
Il y a autre chose dans la question de William, Jean-François Sherman. Il dit qu'en Nouvelle-Zélande, on joue par catégorie.
Oui, on l'a instauré, mais c'est pas si évident que ça. Peut-être au niveau des très jeunes. Mais je pense que c'est assez vrai. À un moment donné, dans le rugby féminin, on a arrêté de mettre la première, deuxième, troisième division. On avait fait une poule globale. Il y a eu beaucoup plus de commotions. Je pense réellement, surtout chez les petits, la disparité de poids fait qu'il y a une augmentation des commotions terribles. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Je suis assez d'accord avec le fait que, de toute façon, tout est dans l'éducation. J'ai beaucoup aimé le témoignage de l'éducateur précédent qui expliquait bien qu'il faut expliquer ce que c'est qu'un le rugby, la passe, le jeu d'évitement, privilégier le jeu d'évitement et non pas le jeu d'affrontement, que le gamin aille marquer son essai tout seul parce qu'il fait 30 ou 40 kilos de plus, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut absolument que les éducateurs expliquent, éduquent, transmettent cette idée justement de l'évitement et aussi expliquent que lorsqu'il y a une commotion, il faut qu'on sorte du terrain. Tout est une question d'éducation, je pense.
Est-ce que ce fameux jeu d'affrontement dont on parlait, Olivier Magne, et le fait que peut-être les plus jeunes donc prennent exemple là-dessus, est devenu plus important depuis que le rugby est professionnel, tout simplement, parce que les enjeux derrière, l'argent et tout ce qui va avec, font que gagner a encore plus de sens qu'il pouvait y en avoir avant?
Après, je disais tout à l'heure, vous savez, le rugby, c'est un sport où il faut être très très intelligent, parce qu'il y a un nombre important de joueurs qui circulent ensemble sur un terrain pour faire vivre ce ballon, pour l'amener derrière la ligne, et en face de vous, vous avez une équipe qui s'oppose avec différentes caractéristiques sur le plan défensif. Donc c'est vrai que les joueurs ont voulu rapidement minimiser, si vous voulez, la prise de risque et la prise de responsabilité. Donc ils sont allés sur des choses relativement simples. Donc c'est quoi la chose la plus simple? C'est d'aller tout droit. Et même s'il y a un mur, je suis capable de casser ce mur et d'aller tout droit. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut complètement sortir de ça, sanctionner évidemment les joueurs qui... Quand ils en ont la possibilité, quand ils sont porteurs du ballon, ils ont la possibilité d'éviter un adversaire, il faut absolument qu'ils l'évitent. On voit trop souvent des situations où il y a des joueurs lancés à pleine vitesse qui, plutôt que de choisir un intervalle, vont choisir le joueur sur l'affrontement pour lui faire mal et pour trouver finalement quelque chose de relativement simple et qui n'est pas un rugby que l'on aime.
Bonsoir Martin.
Bonsoir.
On vous écoute Martin, allez-y.
Oui, merci. Déjà, merci pour vos émissions et merci de prendre la question. Je voulais savoir, au niveau du plaquage, alors effectivement, peut-être qu'interdire le plaquage à deux, ça peut être une solution. Mais moi, je pensais aux plaqueurs et quand on voit le gabarit des joueurs actuellement et les vitesses qu'ils sont capables d'atteindre, je me demande comment un plaqueur est capable d'arrêter à lui seul cette charge. Par exemple, à Montpellier, il y a un ailier qui s'appelle Nadolo, qui fait plus de 130 kilos, si je me souviens bien, et qui court à une vitesse absolument incroyable. Comment un homme seul peut arrêter ça sans s'arracher les biceps, comme c'est arrivé à pas mal de joueurs professionnels? Voilà, merci.
Et merci Martin. Qui sait répondre? Comment on peut ne pas se faire arracher les biceps, Olivier Magne?
Non, mais il y a plusieurs techniques, évidemment, que face à un joueur comme Nadolo, il est évident qu'il faut le prendre très très vite. Alors c'est ça, c'est stratégique aussi, c'est un travail collectif, c'est pas qu'un travail individuel. Il faut aller le chercher très rapidement, le plus haut possible sur le terrain, évidemment, et puis après le plaquer au short, le plaquer en bas, le faire tomber. Une fois que vous avez la possibilité de d'encercler, je dirais, avec vos bras, les chevilles et les jambes de ce joueur, bah, il a les plus grandes chances de tomber.
Est-ce que vous savez ce que c'est que le touch rugby?
Ah oui,
moi c'est quoi,
j'y
le touch rugby
tous les lundis.
Je ne sais pas ce que c'est, moi. C'est quoi le touch rugby? Parce qu'il y a Benoît qui nous dit l'avenir est probablement dans le touch rugby.
Je joue tous les lundis avec les PUC, un vélodrome de la CIPAL, les anciens internationaux, les anciens du PUC. Et en fait, l'idée, c'est de toucher et non pas plaquer. C'est pour les vieux, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de se faire du mal.
Mais qu'est-ce qui se passe quand on touche? Alors, dès qu'on est touché, on lâche la balle, c'est ça?
Quand on touche, on s'arrête et on met la balle entre les
jambes.
Donc
on joue à chat, en quelque sorte, c'est jouer à chat.
Non, non, parce qu'on respecte toutes les règles du rugby, il faut faire la passe en arrière, il faut marquer les essais, on n'y a pas de coup de pied, c'est très agréable.
Bon, eh ben, le touch rugby, vous êtes un adapte, vous,
non, mais
Vincent Pellegrini, ou pas? Mais
France,
créons un club de touch rugby, absolument. Moi, j'en serais ravi. Tiens, j'en profite au passage parce qu'il y a un message. Ah ben, on va écouter Hubert d'abord. Bonsoir, Hubert.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute, Hubert.
Donc moi, je suis interne en médecine et joueur de rugby. Je voulais dire deux choses. La première, c'était que, en effet, on parle beaucoup des commotions au rugby, mais il se trouve qu'en France, le rugby est le seul sport qui en parle. Ce qui fait qu'il y a sûrement beaucoup de commotions dans d'autres sports, a priori, mais que les autres sports n'en parlent pas. Alors le handball a mis en place un carton bleu, je crois, comme au rugby, ça a été fait. Mais dans au football, au basket, etc., pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait. Ma deuxième question, qui s'adresse plutôt au docteur Chaman, c'est que c'est vrai qu'en les consensus internationaux parlent du transfert des connaissances sur les commotions, mais en France on a quand même pas mal de retard là-dessus par rapport à des pays comme le Canada ou les États-Unis, et ce qui fait qu'en fait les sportifs en moyenne reviennent beaucoup trop tôt au jeu après des commotions, et ce qui est un problème et un facteur de risque en plus de de commotion persistant, quoi.
Jean-François Sherman, c'est pour vous cette question.
Alors plusieurs questions. Alors, concernant les autres sports, c'est vrai que le rugby était très novateur. On avait beaucoup de retard en France sur la prise en charge des commotions. Il n'y avait rien qui avait été fait quasiment jusqu'à 2005. Et ensuite, on a mis en place des groupes de réflexion. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de publications qui ont été réalisées. Quelques-unes en français, quelques-unes en anglais, la plupart en français. Mais donc, je pense que tu pourras les lire avec intérêt. Elles t'apprendront beaucoup, beaucoup de choses. Non, franchement. Maintenant, pour les autres sports, il faut savoir que le football, je développe avec Emmanuel Laurent, le médecin fédéral de la Fédération française de football, la même chose que ce qui est fait en rugby, à savoir pour la Ligue 1, pour l'équipe de France de foot et la Ligue 2, des référents qui seront obligés de voir neurologues, les joueurs de football quand ils sont commotionnés. Le même type de protocole qu'on appelle le HIA ou Head Injury Assessment, ça veut dire donc la prise en charge des commotions sur le terrain, quelques heures après, et ensuite par un référent neurologue ou neurochirurgien. Ça, c'est nous qui l'avions mis en place avec Alexis Savigny au Stade Français, puis ensuite au Racing. Et ça a été généralisé à tout le top 14, à la Pro D2 et maintenant au football. Et je peux te dire aussi qu'en judo, il y a aussi une prise de conscience des commotions. Et on a publié plusieurs choses sur la commotion, puisque 30% des judokas de l'équipe de France ont déjà fait une commotion. Donc 30% des footballeurs ont déjà fait une commotion, 50% des rugbyman professionnels ont déjà fait une commotion. Tous ces chiffres-là, quand j'ai commencé à travailler en 2005, ils n'existaient pas. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites sur les commotions. Et je pense que maintenant, nous n'avons plus beaucoup de retard sur les pays anglo-saxons. Et le fait que nous ayons mis en place une consultation spécialisée neurologique ou neurologue ou neurochirurgien à 48 heures, c'est une véritable avance. Une véritable avancée qui nous distingue des autres.
Alors, vous disiez qu'on était en retard, parce que justement, on a cette question de Marc qui dit, a-t-on des statistiques dans les autres pays d'Europe, et notamment en Angleterre? On est en retard à quel niveau? Et est-ce qu'on est plus violent, nous, dans notre rugby, que le sont les autres nations de rugby, que peuvent être l'Angleterre, l'Irlande, etc.?
Ça, je vois. C'est à Olivier qu'il faut poser cette question.
Non, pour l'instant, je crois qu'il y a encore des études et la fédération communique à World Rugby, dirait tous les éléments qu'elle peut avoir de manière à pouvoir coordonner l'ensemble des renseignements et puis définir des règles et puis surtout des choses qui permettront d'éviter ces commotions. Mais pour l'instant, il n'y a pas de chiffres bien précis.
Il y a quand même une prise de conscience européenne. Il y a au Pays de Galles l'ancien capitaine du 15 gallois, Sam Warburton, qui vient d'arrêter sa carrière à 29 ans parce que justement, il avait subi beaucoup de commotions. Donc, dans tous les pays importants du rugby, il y a une prise de conscience. Et c'est pour ça que ça serait intéressant de voir ce que donnera ce colloque avec World Rugby.
Au mois de mars. Hein.
Au mois de mars, 19 et 20 mars, parce que il y a vraiment une prise de conscience un petit peu partout dans le monde. Et également dans l'hémisphère sud.
Jean-François Sherman.
De plus en plus, maintenant, j'ai vu un grand changement dans la prise de conscience des commotions. Quand on a commencé à travailler sur les commotions, les seuls qui arrêtaient de jouer, c'était ceux qui étaient au bord de la retraite. Mm-hmm. Genre, ils ont fait 4-5 commotions à 35 ans, et donc ils disaient, bon, ça suffit maintenant, là, il faut que je m'arrête.
Pour le coup, comme les boxeurs, qui finissent par s'arrêter aussi pour ces raisons-là.
Mais maintenant, c'est même des joueurs de 27-28 mm-hmm. ans qui s'arrêtent, qui sont en pleine force de l'âge, je dirais, et qui normalement devraient jouer encore 5-6 ans. Des mm-hmm. stars du rugby arrêtent parce que justement, ils ne peuvent plus continuer. Non pas parce qu'ils ont fait trop de commotions, mais parce qu'ils ont des signes qui persistent. C'est ça qui est très important à comprendre. Très souvent, on se dit, ah bah, il a fait 3, 4, 5 commotions. Non, c'est pas pour ça. Il arrête parce qu'il a mal à la tête tous les jours, parce qu'il a mal à la tête quand il accélère, parce qu'il a mal à la tête quand il fait la musculation, ou parfois même quand il ne fait rien. Donc il y a une persistance de maux de tête qui font qu'il y a une véritable invalidité. Et toute la question qui se pose, c'est est-ce que ces maux de tête persistants, à la suite des commotions répétées, est-ce qu'ils vont entraîner le développement d'une maladie chronique? C'est toute la question et personne n'est capable de répondre réellement à ça.
Et même pas avec le recul d'anciens joueurs, parce que moi j'ai des souvenirs de gamines où on en parlait tout à l'heure, Vincent.
L'éponge magique.
Oui, l'éponge magique, hop, lève-toi, tu vas y aller. Jean-Pierre Rive qui enlève son bandeau ensanglanté et qui repart sur le terrain après avoir pris un coup monstrueux dans la figure. Donc quand même ça existait avant. Est-ce que du coup on connaît les conséquences sur ces joueurs-là et on se fichait complètement de leurs commotions? Ou pas?
Non, mais il y a des études sur les maladies neurodégénératives qui pourraient toucher les rugbymen, c'est-à-dire type Alzheimer, Parkinson, et en fait, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a une augmentation du risque de maladies neurodégénératives, en tout cas avant l'ère professionnelle, parce que c'est ça qu'il faut voir. Le rugby est un sport professionnel depuis 1996.
Absolument, donc il y a encore du temps pour toutes les études. Olivier Magne, un mot pour vous, c'est celui de Jean-Philippe, je vous le livre avant qu'on se quitte. Serait-il possible de remercier Olivier Magne et de lui rendre grâce? Quel grand joueur il fut. Merci. Il incarne ce rugby que l'on veut retrouver. Heureusement que nos merveilleuses féminines sont là pour le perpétuer. Voilà ce que ça dit et ce sera le mot de la fin. Merci à tous.